La première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire ?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire ?
Par où dire ?
America Parasmart.
Beaucoup plus que le temps architectural, c'est le temps au sens large. C'est-à-dire que chez Alexandre Christians, c'est des moments qui sont très intimes, mais c'est des moments qu'il vit seul et qu'ensuite il partage. De même, chez Anne-Sophie Costenoble, c'est des moments aussi très intimes qu'elle va photographier. Donc on est dans l'ordre du journal intime. Ce qui est intéressant également chez Anne-Sophie Costenoble, c'est l'emploi du sténopé numérique. Donc c'est aussi une relation au temps qui est différente que celle d'un réflexe classique avec un 125e de seconde. Et puis chez Stéphane Couturier, c'est vraiment le temps au sens le plus large qui soit et qu'il traite depuis quand même pas mal d'années, depuis ses tout débuts, tant comme il l'a dit dans son entretien, son introduction, le temps des strates, comme un archéologue, il va fouiller un petit peu de quoi est constitué un bâtiment, les différentes étapes de construction, de destruction, avant reconstruction. Mais également le temps, comme l'a dit M. Cannon, le temps, c'est-à-dire l'appropriation du citoyen, de l'architecture qui est visible chez Stéphane Couturier. Mais c'est intéressant également, c'est que je trouve chez Stéphane Couturier que cette question du temps, il ne tourne pas en rond, il l'a fait évoluer.
Au musée de la photographie à Charleroi, exposition jusqu'au 3 décembre. Avec Stéphane Couturier, Alexandre Christians, Anne-Sophie Costenoble, Joséphine Desmanet, America Parasmart, Pierre-Yves de Sèvres, Xavier Cannon, Georges Vercheval et la voix de Emmanuel d'Autreppe. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinsky.
Authentique, me tento, me tento, me tento,
Le monde invisible.
Par Thierry Genico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des Arts. Et cette vidéo où la balle est peut-être le personnage principal mais absent, où des jeunes gens courent.
On est dans une cour intérieure, une grande cour rectangulaire. Et alors ce qui est assez intéressant dans la vidéo moi, que j'ai voulu faire, c'est que de quelque chose de rectangulaire, j'en fais quelque chose de rectiligne. Et finalement, justement, au lieu d'être dans une cour, on déplie l'architecture pour en faire quelque chose de complètement linéaire avec une espèce de colonne sans fin, parce que cette cour s'appelle la cour des 200 colonnes. Ces 200 colonnes qui rythment la cour. Et tout d'un coup, la cour devient ligne. Et donc il y a un petit subterfuge dans la manière dont est faite la vidéo, justement où on est purement documentaire, mais à un moment donné, par les nouvelles technologies d'aujourd'hui, on arrive à mettre côte à côte les deux côtés de la cour. Et ce qui est l'un en face de l'autre devient une continuité. Et les footballeurs, on les voit d'un côté, mais on les voit aussi 5 ou 10 minutes de l'autre, avec une espèce de miroir.
Il y a deux types de portraits. Il y a à la fois le portrait des habitants, qui sont des portraits en pied, où le sujet est central. Et puis vous avez hommes, femmes. Dans l'exposition, il y a, il me semble, 5 hommes pour une seule femme. Mais nous y reviendrons tout de suite. Et puis il y a des espèces de portraits de ce qu'il a photographié dans les marchés à Alger, c'est-à-dire des têtes de femmes voilées, portant des lunettes de soleil ou des lunettes classiques. Alors, pourquoi si peu de femmes ? Parce que si on regarde bien les photographies qu'il a fait à Bab El Oued, les femmes sont omniprésentes par leur travail, c'est-à-dire qui tient le ménage, les femmes, qui tend le linge, les femmes.
C'est le construit, on va dire, plus plus que l'architecture, c'est la construction de l'homme, la construction des villes et l'entre-deux temporel, le mouvement, les choses qui sont en train de se faire. Un peu d'ailleurs, on le retrouve dans les usines à Toyota, enfin, la ville en tant qu'organisme vivant.
Au tournant des années 2000, on a eu cette révolution numérique qui est arrivée et qui a fait que le travail des photographes comme moi, qui étaient en argentique avant ces années-là, a été complètement perturbé et chamboulé par l'arrivée du numérique, parce que finalement, ça a été un défi pour beaucoup de photographes de se dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je tourne le dos au numérique et je continue comme avant ? Ou au contraire, ben, je quitte l'argentique et puis je vais sur mon ordinateur, je travaille complètement différemment.
C'est la ville comme organisme vivant qui m'intéresse. En même temps, les humains ne sont pas très présents sur les photographies, ou même très peu présents. D'ailleurs, souvent, les gens me disent « Mais pourquoi il n'y a jamais personne sur vos photos ?» Alors, ce qui est faux, parce que souvent, il y a des personnages, mais qui sont des fois en tout petit, ou beaucoup de traces laissées par l'humain. Mais l'idée, c'est aussi de voir un petit peu la trame urbaine, de la trame un petit peu de cette organisation qu'ont construit les hommes, et de voir comment le temps a sédimenté un peu les différentes histoires de la ville. Parce que finalement, tous ces lieux, c'est des lieux qui ont vécu des tas d'histoires successives, qui sont comme des strates. Et donc voilà, moi l'idée c'est de travailler un peu sur le temps. Alger, en plus, il y a l'histoire entre la France et l'Algérie, donc il y a toute cette espèce de, je dirais, de télescopage entre ces deux cultures de chaque côté de la Méditerranée, et dans bien des cas, des bâtiments qui ont été construits par les architectes français, quand l'Algérie était française, comme un département français, et qui après ont été réinvesti, réhabité et réapproprié par les Algériens, enfin, alors, qui pour beaucoup vivaient déjà dans ces lieux-là, mais qui ont réinvesti des fois des lieux qui étaient construits vraiment dans une autre perspective, en tout cas avec une architecture qui n'était pas forcément, je pense aux bâtiments à Bab El Oued, qui sont des architectures qu'on aurait pu trouver à Marseille, dans des villes de métropole, et donc maintenant qui sont habités par des Algériens qui ont des modes de vie sans doute différents des Français, donc du coup avec une manière de vivre dedans différente. C'est aussi l'histoire, le temps et la manière dont la ville évolue, les gens évoluent et ce côté organique d'un espèce de recyclage permanent. D'ailleurs, moi, la première série que j'avais faite, notamment avec des photos de Berlin, je l'avais intitulée « Archéologie urbaine ». Vous voyez ? Donc, on est vraiment aussi dans ce côté archéologie où le spectateur, lui-même, devient un peu archéologue, finalement. C'est ça qui me passionne toujours dans la photographie, c'est que on a toujours cet ancrage documentaire dans le réel. Et donc, quel que soit ce qu'on a voulu photographier, il y a toujours des choses indicielles. C'est des indices, des éléments, des détails qui vont donner une explication sur certains éléments du lieu. Où est-ce qu'on est ? Dans quelle ville sommes-nous ? Qu'est-ce qui va nous dire qu'on est à Berlin, à Paris, à Alger ou La Havane, par exemple ? Vous voyez, c'est des tas de petits indices. Ou dans une usine. La construction, par exemple, de la voiture qui m'intéresse, et non pas la voiture terminée. Donc c'est le processus de construction. Comme le chantier urbain, c'est le chantier de la voiture. C'est une trame. Pour moi, la composition photographique, c'est une trame très frontale d'ailleurs. Moi, je travaille quasiment sur la frontalité. Et je dirais, c'est comme une partition musicale. D'ailleurs, le carton d'invitation de l'exposition, c'est une partition musicale. C'est comment les gens ont investi le bâtiment et comment, avec les fenêtres ouvertes, les volets ouverts, fermés, les réappropriations des fenêtres qu'ils ont fait, on a quelque chose de très musical finalement.
C'est un lieu de vie, un lieu de vie où il y a énormément de monde. Et donc les portraits photographiques, ce sont les gens qui habitent dans ce quartier dont ils sont fiers. Et c'est à mon avis pour ça que Stéphane Couturier les a pris en photo. C'est parce que malgré l'état des bâtiments actuels que l'on peut voir sur les photographies, ces gens sont fiers d'habiter où ils habitent et ils sont fiers d'être là. Et donc à mon avis, c'est des portraits sur la fierté. Voilà. Donc c'est des très très beaux portraits que je ne connaissais pas. Le travail de portrait de Stéphane Couturier n'a jamais existé avant aujourd'hui, tout comme son travail vidéo. Et ça c'est très très bien, parce qu'il avance, il avance bien, et j'ai envie de le voir dans 10 ans pour savoir jusqu'où il aura porté son nouveau questionnement par rapport à l'image, à la véracité de l'image, mais également par rapport au temps.
La trame est quelque chose qui précède en tout cas la photographie. Pour moi, c'est une composition. Le son, c'est le son de l'enregistrement, c'est le son du quotidien de cette cour, tout simplement. Alors, c'est une atmosphère de la cour, parce que cette cour est rectangulaire, c'est une très grande cour, énorme. Hein, la cour du Palais Royal, c'est aussi grand que ça, ça fait plus de 250 mètres de long. Et donc quand vous rentrez dans cette cour, il y a une résonance, c'est-à-dire qu'on est comme dans une arène. Et les sons réverbèrent beaucoup. Fernand Pouillon, qui est un des architectes que j'ai photographié à Alger, par exemple, est un de ceux-là. Il s'est beaucoup inspiré de l'architecture ottomane et de la manière dont les gens sur place vivaient pour construire les logements d'Alger. Donc il y a une réflexion extrêmement importante, d'abord sur le climat, sur la culture des gens, comment ils vivent dans leurs appartements, comment ils vivent au dehors de leurs appartements, pour proposer à la fois quelque chose de monumental et en même temps quelque chose pour le peuple. Et il disait, je crois, j'ai essayé de construire pour les populations les plus pauvres, parmi les plus pauvres d'Algérie, mais je voulais qu'ils aient un palais pour eux. Donc je pense ce côté humble et en même temps forcément en tant qu'architecte un peu, comment dire, un peu mégalomane, mais je trouve que c'est important d'avoir aussi cette attention à ceux qui vont habiter.
Séoul, j'ai vu une image de Séoul.
Oui.
Vous pouvez la décrire ?
Elle fait partie de la série archéologie urbaine. C'était encore l'époque de l'argentique. C'est un travail qui était encore fait à la chambre photographique et qui est une composition sur une mise à plat. Souvent, la photographie est là à transmettre le relief et donner du relief à quelque chose qui est en deux dimensions. En fin de compte, moi, je fais l'inverse. J'essaye d'aplatir ce qui devrait être en volume. Et donc l'idée, c'est de travailler sur ces aplats et d'avoir un point de vue, parce que la notion de point de vue est très importante. Un point de vue à 50 cm près, vous n'avez plus le même point de vue que... On est dépendant de la perspective, donc on n'est pas un peintre qui peut tricher ou qui peut... La photographie, elle enregistre le réel, hein, dans un sens. En tout cas, là, il y a cet effet de réalité. Et du coup, là, le travail, c'est d'essayer de choisir la lumière, le point de vue, pour arriver à transmettre quelque chose qui est de l'ordre d'une composition, d'une voilà, d'un point de vue, mais en même temps de témoigner, d'être dans le documentaire, de dire à un moment donné, ce lieu-là, c'est ça, c'est ma vision en tout cas de ce lieu.
Et ce lieu montre, pour nous qui ne le voyons pas,
ben, ce côté justement organique de quelque chose qui est en train de se construire. On est dans des bâtiments déjà construits, d'autres en train de se construire, et en même temps des couleurs, des éléments du quotidien. Tout ça se mélange, se télescope pour faire une proposition photographique qui ne résume pas Séoul, mais qui est un moment, je dirais, qui condense, qui synthétise aussi la ville de Séoul. C'est quoi Séoul? Les matériaux, on a du béton, on a de la brique, on a beaucoup de modernité, on a très peu de... D'ailleurs, c'est des villes neuves, hein. Par exemple, à Corée, il y a 50 ans, vous aviez 80% de gens qui vivaient dans la campagne et 20% en ville. Aujourd'hui, c'est l'inverse.
À travers l'évolution du médium, comment ma vision à moi a aussi évolué? Alors, au départ, on l'a depuis le début avec, je pense, une photo de Berlin de 1996, assez vite, mon travail a été... constitué par un travail sur, je dirais, le fragment, le côté contextuel, la ville comme un organisme vivant, et aussi cette frontalité qui est, je dirais, assez générale dans le travail que j'effectue. Travail sur le temps aussi, parce qu'à travers les villes, essentiellement les villes, mais aussi de temps en temps les usines, c'est aussi le travail sur cette sédimentation des différentes temporalités de la ville, qui est finalement le reflet de toutes les décisions politiques, économiques et sociales d'un pays. C'est qu'est-ce qui fait que quand vous regardez une photo, vous pouvez vous dire vous êtes à Paris, vous êtes à Berlin, vous êtes à Alger, vous êtes à La Havane. Il y a plein d'indices, plein d'éléments qui vont vous faire dire où est-ce que je suis, qu'est-ce que c'est, quand est-ce que ça a été fait, quelle ville suis-je en train de regarder. Et en même temps, c'est aussi un travail de composition, sorte de all-over dans bien des cas où finalement ce qui est montré pourrait se continuer à l'instar de la photo de couverture de l'affiche où finalement c'est un fragment mais je me plais à l'idée de jouer avec maintenant l'arrivée du numérique sur cet écart où on ne sait plus très bien ce qu'on regarde. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est quelque chose de virtuel? Qu'est-ce que c'est?
On a des vitesses de transformation des villes bien plus importantes qu'en Europe. Et ça aussi, ça fait partie aussi de la spécificité de ces villes.
Vous dites le temps, c'est ce temps qui est montré dans la box-galerie. La box.
Oui.
Ce temps architectural,
oui.
Ce temps occupé à Abidjan, Côte oui. d'Ivoire, par des usagers de cette architecture
exact.
Contemporaine.
Oui, mais c'est très intéressant parce que ce travail justement sur la réappropriation des architectures par les habitants est quelque chose, un questionnement qui est nouveau. Dans ce sens où, dans l'histoire de l'architecture, la photographie a servi le travail des architectes, c'est-à-dire mettre en valeur ce qui a été construit. Et on ne s'est jamais réellement intéressé aux personnes qui allaient y habiter. Et cette question qui devient en plus une question sociétale, c'est-à-dire que font les gens lorsqu'ils habitent dans des architectures imaginées par d'autres, est quelque chose de complètement nouveau comme questionnement. On pourrait aussi s'interroger dans ce travail qui est fait sur les migrants.
Et Xavier Canon me dit que vous photographiez volontiers ce qui est abandonné par des passagers précaires.
Mais en tout cas, pour ce travail, c'était vraiment de partir de ma confrontation en fait, des images d'actualité. Et de l'idée que, au final, je connais la situation des migrants que par image interposée. Et donc, c'était vraiment de produire un geste, d'agir. Et donc, au lieu de choisir de faire des photos documentaires, genre en quelque sorte élaborer des constructions, justement à partir de traces et d'objets abandonnés. Et donc, c'était un peu un moyen d'agir sur un passé par des éléments laissés dans le présent. Et aussi de détourner ces objets pour justement leur donner une signification plus symbolique, en fait. des bouées que j'ai récupérées sur les côtes. Et donc je les ai justement réassemblées pour créer une structure reconnaissable et la remettre à la mer. Et après j'ai fait aussi d'autres éléments comme en fait un ensemble de vêtements que j'ai cousus entre eux et que j'ai attachés en fait à une frontière. Et donc c'est aussi des éléments, c'est des vêtements que j'ai retrouvés sur les frontières et c'est toujours partir de cette base pour produire un geste et la remettre en situation après dans le contexte en fait dans lequel j'ai trouvé.
Donc vous êtes performeuse et les photographies qu'on peut voir sont le produit de vos gestes préalables.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, en fait, c'est choisir d'agir et ensuite de fixer l'instant avec la photo. Mais c'était aussi une manière d'interroger la photo en tant que trace et puis aussi toute cette partie image médiatique. Et donc retourner un peu cette vision-là qu'on a de l'image et la rendre un peu plus objet matériel. Et donc aussi d'interroger notre statut de spectateur face à l'image et aux événements.
C'est-à-dire ces constructions, comme on peut le voir sur les photographies de cette jeune femme, démenée, ces constructions faites de couvertures anti-froid, d'abritations précaires, toute cette question-là est une question qui est récurrente, qui devient récurrente en photographie contemporaine, que ce soit chez les plasticiens ou que ce soit dans le reportage et le documentaire.
J'ai travaillé en fait avec des impressions sur des plaques de carton. Donc c'est un aspect assez fragile et en même temps naturel, je trouve. Et ce qui était intéressant aussi avec ce support, c'est de pouvoir le placer au sol et non pas accrocher au mur. Mais non, vraiment, c'était en fait encore affirmer que c'était un objet et non pas une image simplement accrochée. Donc, voilà.
Ça fait longtemps que la question des réfugiés vous intéresse.
Ça fait longtemps que, en tout cas, je suis spectatrice de ça, mais c'est vrai que ces dernières années, j'ai voulu vraiment approfondir là-dessus, parce que c'est encore plus présent, je trouve, dans les médias, et c'est ça qui a déclenché mon envie de travailler là-dessus. Et aussi le fait qu'on se sent toujours un peu, spectateur, et en même temps, sans force face à ces images, et donc c'était, oui, de choisir à un moment donné de faire quelque chose un peu symbolique pour cette cause.
Donc c'est une question, on avance avec la société dans laquelle on vit. Cette question des migrants est une question qui a toujours existé depuis la préhistoire. Il y a des mouvements de population. Aujourd'hui, les politiques des pays font qu'il y a problème, mais ces mouvements de population ont toujours existé. Toujours, toujours. Et c'est contemporain que cela pose problème de manière politique. Donc voilà, et chacun s'en sert un peu à sa sauce, on tire d'un côté, on tire de l'autre, et ces pauvres gens sont au milieu, parfois dans des situations hyper précaires, qu'on va stocker dans des endroits où ils ne veulent pas être. C'est un peu ce point de vue-là que la photographie de reportage, de documentaire et plasticienne met en avant par différentes techniques photographiques et de langage photographique. Et ça, c'est un questionnement intéressant, puisque la photographie vient nous interroger, nous, en tant que citoyens, de manière visuelle, sur des questions où on ne peut pas se dire « on laisse ça aux autres ». Non, on est confronté tous les jours à cette précarité, que ce soit des migrants ou que ce soit des non-migrants, les SDF. Pourquoi s'en occuper uniquement en hiver et pourquoi pas s'en occuper également en été ? Et les places dans les refuges, etc. On en revient à cette question du SAMU social à Bruxelles. Donc tout devient politique. Mais, comme a dit un très grand photographe, la photographie vient vous poser des questions auxquelles vous n'auriez jamais pensé auparavant. Et ça, c'est très intéressant.
Et aujourd'hui, vous travaillez sur quel sujet ?
Un livre sur les vanités. En fait, je réactualise le concept de vanité dans la peinture du 17e pour en fait le confronter à un univers pop qui est en fait en reprend les attributs. Et donc, c'est un peu aussi interroger avec humour cette mise en garde des vanités et puis célébrer un peu la vie. Et donc, le travail que je fais en ce moment est plus dans cette ligne-là.
Exemple concret ?
Dans ce livre, justement, c'est un travail avec des images qui sont toutes tirées d'Internet. Et c'était vraiment la démarche de créer des associations, des collages, et jouer avec les codes. Et donc, ça peut parfois être un crâne avec des yeux rajoutés ou des images qui sont réemployer et changer juste avec la couleur ou des choses comme ça. Et donc c'est un peu une explosion visuelle que j'ai voulu faire dans le livre et qui se déploie sur toutes les pages.
Là, il y a quelque chose d'organique, je pense, c'est sensoriel aussi. Mais qu'inconsciemment, je pense que je mets dans mon travail.
Et tout n'est pas noir et blanc.
Non, mais je crois pas que ce soit des vraies couleurs non plus. C'est des couleurs sourdes, en fait. J'aime bien dessiner les lumières difficiles. Je fais souvent mes photos en fin de journée, comme ça, entre chien et loup, ou quand il y a de la brume, je sais pas, j'aime comme ça, le hasard aussi intervient dans ma photographie. C'est la vie, c'est des petits moments qui me touchent. Voilà, je photographie très vite. Voilà, j'ai vu ça, c'était ma fille. Voilà, on faisait une balade en famille et... On avait un peu marre de marcher et on a attendu un peu le reste de la famille. Et voilà, on a partagé ce petit moment ensemble, voilà, on s'est occupé.
Le travail d'Anne-Sophie Costenoble, qui a fait des études d'histoire de l'art, de kiné, entre autres, et puis qui a été parmi les membres fondateurs du collectif Caravane, maintenant dissous, je pense, Anne-Sophie. Ça existe toujours, Caravane ? Qui était plutôt orientée reportage et à l'intérieur de laquelle tu étais déjà un petit peu... en porte-à-faux, puisque tu avais quand même déjà inauguré une série plus intimiste et qui donne lieu à une publication dont tu t'es occupé toi-même, comme une grande, qui s'appelle L'Heure Bleue. Le bouquin a lui aussi été produit à l'occasion, j'allais dire à l'occasion de la Biennale, mais pas seulement, puisqu'il y a une exposition avec le musée de la photographie à Charleroi qui va suivre.
Non, c'est surtout en voyage ou en vacances, mais aussi de temps en temps, il y a des émotions qui viennent, il y a des rencontres et... Il y a parfois des gens qui me touchent, je me dis ok, je vais vers eux et je leur dis voilà, je sens qu'il y a quelque chose, j'ai envie de vous photographier, on fixe un petit moment. Et c'est plus le voyage. Voilà. Je marche beaucoup, j'aime bien les vacances. Je marche et puis voilà, je me laisse porter.
Et nous sommes ici dans la Biennale de la photographie à Marchin. Mais vous allez exposer cet automne à Charleroi ?
Oui, au musée de la photographie. Sur une autre exposition qui s'intitulera L'Heure Bleue. Et là, c'est Xavier Cannon qui a fait un journal photographique, en fait. Et il a sélectionné un corpus d'images. Et je suis partie de là pour faire le livre, entre autres. Et ici, c'est Emmanuel Dautrey qui a choisi d'autres images qui tournent autour du rêve.
Préférez le soleil?
Oui, moi je préfère le soleil, oui.
Pourtant, vos images sont noires et blancs.
Oui.
Et je dirais nocturnes.
Entre chien et loup, je dirais.
Toujours rêve. Ah, vous voyez de la mort. Il y en a qui voient du rêve, il y en a qui voient de la mort.
Oui. Je glane des images, il y a un travail de collecte d'images. Je photographie des petites choses, des petits instants fragiles qui me touchent. Hein, j'ai l'impression que j'ai besoin d'être touchée pour voir. Les humains, les animaux, la nature morte, le corps aussi. Et puis, j'ai besoin de laisser les choses décanter. Je laisse poser les images. Et puis, ce qui me plaît, c'est de temps en temps, j'étale toutes mes images comme ça. Et puis, les images s'attirent. Il y a des liens fragiles qui apparaissent. Elles font écho. Et j'ai l'impression d'écrire, je dis souvent que mes images sont un peu comme des mots. Un peu comme en poésie, où un mot est attiré par un autre et ça ouvre vers autre chose. Et voilà, c'est ce qui me plaît, c'est de réinventer sans cesse mon travail. Je travaille pas en série, c'est un journal photographique en fait. Et c'est plus... voilà, ça m'amuse plus en fait. C'est ce que je disais, il faut vraiment que je sois touchée par quelque chose. Mais si je... Si je fais une rencontre particulière ou si un lieu m'attire, alors là ça va très vite et
mais l'image est rare en fait. C'est un travail sur la sensation, c'est un peu comme en poésie, quoi. On est dans la sensation. Et ça pourrait être des petits bouts d'histoire comme ça, que l'autre est censé poursuivre, ou bien des petits poèmes visuels. Où on est dans la sensation, la matière poétique, et du jeu en fait, en tout cas.
Et le jeu, c'est dans quel sens?
Dans l'idée de réinventer sans cesse le travail. Et aussi, il y a une ambiguïté, je pense aussi, vous le disiez tantôt, la mort, le rêve. Voilà, j'aime cette ambiguïté, en fait. C'est ce que je recherche aussi. J'aime pas les images trop évidentes. J'ai besoin d'être surprise, en fait. Quand je sélectionne mes images, il faut que soit je sois touchée, soit je sois surprise par l'image. Je sais que c'est juste, en fait. Elle rentre pas forcément dans mon travail, mais la sélectionne, en tout cas. Faut pas le mental, je dois pas réfléchir, pas trop réfléchir à ce que je veux.
Et la prise de vue est-elle faite presque en aveugle?
Ah oui, je travaille au sténopé, donc là je ne maîtrise pas grand-chose en tout cas. La nuit, le soir, comme ça le hasard aussi peut intervenir dans mon image. Pas que ce soit trop évident. Je peux être attiré par une odeur, un bruit, puis un côté tactile aussi qui est très présent. J'ai envie de toucher.
On est interrompu.
Vous partez du réel et vous allez créer une nouvelle combinatoire. Et vous allez, par exemple, pour les bandes qui sont là-bas, et ça je vais demander à Xavier de changer tous les jours une des bandes pour les mettre...
Le lundi avant.
Mais si vous voulez, l'idée c'est qu'il n'y a pas d'ordre dans les éléments. Vous pouvez les changer, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous pouvez en mettre 5, 10, 15, 20. Alors là, on en a mis, je ne sais pas, une trentaine.
Thierry, 24 Thierry.
À tout à l'heure peut-être.
Oh, je crois que
j'ai tout dit, non ? Georges Vercheval, vous me parlez d'Alexandre Christians, que vous connaissez depuis longtemps.
Je le connais, comme je connais aussi très bien Anne-Sophie Costenoble. Voilà, et je connais le travail de Stéphane Couturier. C'est une redécouverte à chaque fois. Alexandre Christians et pour Anne-Sophie Costenoble, je trouve que ce sont de grands poètes, en même temps que d'être d'excellents photographes. Et ça me touche beaucoup parce que la poésie, ça existe, quoi.
Vous croyez que c'est un mot qui est encore droit de citer ?
Oh, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup qu'effectivement, on reste poète, qu'on le soit, qu'on continue à sentir les choses. Et Alexandre Christians, il vient donc de parler assez longuement à l'ouverture de son exposition. Vous sentez qu'il a envie de parler de poésie, il ne dit pas le mot. Mais les photographies, c'est ça, quoi. Quand il montre simplement la mer, rien que la mer, une vague qui arrive, ou un horizon, ou une vue aérienne, mais lui le voit autrement, à chaque fois. À chaque fois, on est touché. Parce qu'il nous suggère, il y a de la suggestion.
L'île de Wight, une ancienne première image de la mer que j'avais fait à l'époque, à la mort de ma mère. Ça devait être lié parce que j'avais besoin de partir et je suis simplement parti avec mon appareil. J'ai été marcher sur l'île de Wight et j'ai dormi là, sur la plage à la Belle Étoile et j'ai fait cette image en me levant entre l'éveil et le rêve et le songe. Et ça a donné ça, avec ces trous, et puis c'est devenu très, très significatif pour moi. Déjà aussi parce que la vie continue après des événements comme ça. C'est aussi une image qui m'a ancré dans l'idée que j'allais poursuivre autour de la mer, en plus d'un livre que je venais d'acheter de Paul Valéry, qui parlait de mer marin marine, d'un très beau texte, et je me suis dit, ah, c'est par là que je vais engager mon travail photographique.
À côté de ces images-là, il y a cette construction d'une coque ou une coque qu'on démonte, je ne sais pas trop ce que c'est. Je crois qu'on l'a construit. Elle est fantomatique, elle est extraordinaire, c'est une architecture formidable.
J'adore la Grèce. Je suis reparti à Athènes, qu'on était à Athènes quand il y avait les événements, il y a de nouvelles élections avec Tsipras, etc. découvert Sitter et le Mont Athos et autres dans les années en 2002, quelque chose comme ça. Et j'ai vraiment été subjugué par ces îles, par ces cailloux, par les gens aussi, une espèce de rudesse, ces gens qui sont beaux, comme dans les textes de Paul Valéry, un peu des permecs de la mer, des gens solides et puis juste humbles, etc. Et tout fonctionne avec. Et puis après, l'histoire. Toute l'histoire de la Grèce ancrée d'une manière contemporaine et puis qui rattrape tellement l'ordre de toute cette mythologie et de toutes ces histoires qui sont autour et qui vont avec. Donc oui, énormément de prégnance de la Grèce.
Le Parthénon, par exemple, où il ose montrer une photo du Parthénon en travaux comme il l'est depuis des années. Hein, j'ai eu la chance de le visiter seul. Avec le photographe du Parthénon. J'en ai fait des photos, mais j'ai surtout ramené pour le musée des photos faites par le photographe du Parthénon. Voilà, c'est ça, comme ça que se construit une collection aussi. Donc, la photographie du Parthénon qu'il expose ici, avec ces deux accidents qui arrivent dedans, c'est aussi quelque chose. Oser montrer, vouloir montrer une photographie où il y a un accident de lumière, hein, ce brûlage qui arrive du haut comme ça, je trouve que c'est formidable parce que ça nous confronte au temps également. Je trouve que vraiment il y a quelque chose d'extraordinaire.
De nos histoires et de l'histoire au niveau même de l'archéologie, des choses qui me passionnent assez pour ce qu'elle laisse comme trace et pour ce qu'elle nous laisse dans notre subsistance. Quelque chose qui ne nous décroche pas de ce qui a été et qui nous permet de continuer. Je crois que c'est ce qui m'intéresse dans cette relation au travail que j'engage dans ma photographie, surtout.
C'est un baroudeur, c'est quelqu'un qui va vivre les lieux, mais on sent que c'est une âme tourmentée. Il est omnibulé par la mer, par la côte, et ses images sont à la fois très bien construites, mais moi j'appelle plutôt ça de la photographie subjective, c'est-à-dire qu'il va traiter ses démons intérieurs et va essayer de les rendre de manière visuelle, même si lui n'en a pas encore conscience. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on regarde ses photographies.
J'ai parlé avec lui de la question de la sensation, qui est censée être première à sa démarche. Vous êtes d'accord ?
Oui, moi je suis tout à fait d'accord, parce que on pourrait donner 10 appareils photo à 10 personnes différentes, les photos ne seraient jamais pareilles. Parce que tout est question de sentiment, de ce qu'on y met et de ce qu'on y voit. Et ensuite, de la manière dont on veut les montrer. Chez Christians, il y a des photographies qu'il a fait à Valparaiso, au Chili. Des photographies noires, sombres, alors que c'est une ville au Chili qui est hyper lumineuse et hyper colorée. Donc vous voyez que c'est une vision du monde qu'il a, mais qui est très intéressante d'autre part. Il parle lui-même de mythologie et effectivement, dans son œuvre, tout est baigné de mythologie. Les cavernes, les bateaux qui font passage, comme dans l'ancienne Égypte où on voit les passeurs d'âmes. Il y a une photographie d'une chienne, on dirait la louve romaine. Il y a une photographie qu'il a faite en Inde d'un bateau en construction ou déconstruction, on ne sait pas très bien, mais qui fait nettement référence aux chrétiens, à l'arche de Noé. C'est ça qui est intéressant aussi dans la photographie, c'est qu'on ne la regarde pas vierge, on la regarde avec tous nos bagages culturels. Nous, on y voit l'arche de Noé, mais peut-être qu'un jeune Indien, il voit une architecture extraordinaire, une construction de bateaux comme lui les connaît. Donc on regarde toujours une photographie avec qui on est et notre regard. Et je pense que Christians, il a un regard qui est très torturé, mais en même temps plein d'histoire, mais comme c'est un baroudeur, d'histoire du monde entier. Dans ces marines, par exemple, on a la vision de Turner, une espèce de tornade. Mais c'est rendu avec beaucoup de subtilité et beaucoup de poésie, je trouve, pour des photographies aussi noires.
Comme tous les marins, c'est un peu un taiseux. Même quand il est à terre, il n'est pas que marin. Il est photographe, il est enseignant. Il retape une très jolie maison dans un coin du Namurois. C'est toute une œuvre aussi de refaire une maison. Et donc c'est pour ça que je me permets de l'introduire, parce qu'il n'est pas le plus loquace, donc vous allez avoir du mal à le soumettre à la question.
Voyage autour de ma chambre noire. À l'origine, l'idée de l'exposition, je pense le titre d'ailleurs de l'exposition, c'est Réseau cristallin. Mais j'aimais bien lui donner un intertitre ou un sous-titre pour souligner, ce dont Alex parle très bien évidemment, c'est-à-dire tous les voyages, mais aussi le fait que ces voyages se passent d'abord... autour de son agrandisseur. Le travail du photographe est un travail très ingrat. Je pense que ce que les spectateurs voient, c'est d'abord le voyage, le départ, les distances, l'Inde, Sitter, les traversées transatlantiques, etc. Mais comme le dit également Alexandre, c'est une matière qu'il rassemble là-bas. Et après ça, il faut en faire quelque chose. Et là, il n'y a rien à faire. C'est la chambre noire, c'est le travail que le visiteur ne perçoit évidemment pas forcément. Et puis aussi quelque chose sur lequel j'ai voulu insister, parce que lorsqu'on parle de voyage, on accole généralement au voyage l'idée d'exotisme. Les photographies d'Inde sont des photographies de nuit qui pourraient avoir été prises d'un pour tout, si ce n'est que c'est un bateau en construction, en bois, c'est quelque chose de très particulier. Les photos du mont Athos, on ne voit pas le mont Athos, on voit l'ombre portée du mont Athos sur la mer, etc. Je voulais insister sur le fait qu'il n'est pas question d'exotisme ici, il est question vraiment d'aller chercher ailleurs, encore une fois, un matériau de construction. C'est au départ de cet ailleurs qu'il va bâtir quelque chose. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez lui, ce refus d'aller chercher quelque chose d'une soi-disant altérité. Le monde est traversé par l'humain. Alexandre passe d'un pays à l'autre, mais toujours en quête de quelque chose qui lui est propre. Voilà. Je trouve que c'est un travail que j'aime beaucoup pour cette raison-là.
Dans le rapport à l'histoire et dans le rapport aux histoires, je pourrais raconter aussi. Je ne suis pas un spécialiste ni des mythologies, ni un grand historien de l'art, mais dans l'idée de la mythologie, il y a pour moi tout ce qui subsiste. Et je crois que c'est là-dessus que j'appuie le terme. Je traite, entre guillemets, ce sujet à ma façon. Le temps, la mémoire. J'adore l'origine des choses, en fait, parce que je ne me suis pas rendu compte souvent de ce que je faisais en photographie. C'est avec le temps que ça vient. Donc j'ai beaucoup accumulé, et après il y a quelques images qui sont rentrées en contagion et qui ont fait ce qu'elles sont devenues maintenant, organisation de ce qu'elles peuvent se montrer ou donner lors d'expositions comme ça. Mais je me suis rendu compte que c'était une question d'origine, c'est effectivement une question de temps, qui est du temps large, du temps long, comme la mythologie, quoi. La mythologie est inscrite dans un temps hors temps. Et tout ce rapport-là m'intéresse. De là, d'ailleurs, ce qui pourrait être trouvé comme une complexité du regard, quand on se dit, tiens, qu'est-ce que ces grottes viennent faire au milieu de ces vagues, ou ces carcasses de bateaux devant le Parthénon, qui n'est plus qu'une espèce de subsistance de lui-même, puisqu'il y a toutes les structures autour. Mais tout ça est pour moi absolument lié. Je sais que quand je suis rentré un jour dans des grottes, j'ai été, c'était un peu par hasard en Roumanie, enfin, je ne vais pas raconter toute l'histoire qui m'a mené là, mais c'est toujours des histoires de entre guillemets, de voyage, mais de rencontres peu probables. Et je me suis retrouvé dans des espaces absolument inouïs. C'est comme quand on rentre dans des petites chapelles, ou dans des collégiales, ou dans des choses avec des concrétions gigantesques. J'ai eu quelque chose qui m'a vraiment troublé. Je me suis dit, mais ce temps qui est là, qui représente, ces concrétions représentent des millions d'années. Une espèce de goutte à goutte, c'est sous terre, et j'avais l'impression qu'il y avait une espèce d'âme ou de cœur, comme ça, de la terre qui fonctionne sous nous, et qui. Ça m'a beaucoup rassuré. J'ai dit, tiens, il y a quelque chose qui est là, c'est comme les volcans, c'est comme tout ce qui bouge et qui draine. C'est aussi du temps long, c'est le temps de notre terre, c'est le temps de l'univers, c'est le temps de. Et quand je tombe sur une espèce de cinéma en Inde avec cette paroi galaxie, cette espèce de vieille enseigne galaxie sur un ciel vierge d'étoiles, et je me dis, oh. Voilà, là on est dans la forme, il y a du mot et c'est du rapport que j'extrude de ça.
Alexandre Christian, il me semble que vous procédez de manière poétique.
Je ressens à ce que le corps fait.
Oui, je pense à l'île de Wight. On sent bien la douleur, on sent bien dans tout ce qu'il y a mis au niveau visuel, on sent bien que ces photographies-là sont chargées de sentiments. Et c'est pour ça que je vous parlais de photographie introspective. Parce que justement, ça part des tripes et ça remonte, même si lui n'arrive pas encore à y mettre des mots. Voilà. C'est vrai que ces nouveaux travaux, ils sont plasticiens, ils sont inclassables. que ce soit Anne-Sophie Kostenoble ou Alexandre Christiane, on ne peut pas les classer dans l'histoire de la photographie. Parce que justement, ils partent de leur vie quotidienne et du banal pour aller vers autre chose.
Photographier, pour moi, c'est un verbe d'action. J'avais besoin d'être en mouvement, de me mettre en mouvement. Et quand on est subjugué par quelque chose et qu'on est pris par tout ça, c'est tout le corps qui... Alors c'est vrai qu'il y a donc, cette prégnation d'abord de soi. On est des réceptacles sensibles. Et devant la nature, et devant une femme, et devant une montagne, et devant enfin, des tas de choses. Même dans nos rapports humains au quotidien, quand on discute, des fois on a du rapport, des fois on en a moins, et ces sensibilités sont là. C'est évidemment à partir de là que je travaille.
On se connaît au fond pas depuis des années, mais j'avais vu son travail à plusieurs reprises par petits morceaux et je pense qu'on s'est un peu approché l'un vers l'autre comme ça, comme des chats, sans trop se faire de signaux. Il faut aussi le capter quand il est sur le plancher des vaches et pas en train de ramener de beaux bateaux à travers les mers. Et c'est peut-être la seule chose que je dirais avant de lui laisser la parole, c'est que ce n'est pas une exposition d'un marin qui photographierait dans ses voyages depuis son bateau des choses. C'est quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre du voyage intérieur, beaucoup plus de l'ordre un peu du mythe. Il y a dans ces images des matières, il y a dans ces images des monuments anciens, des bâtiments nouveaux.
Je pense que c'est un travail qui est bien plus intellectuel qu'on ne le pense. Évidemment, il y a toujours cette tentation de parler de poésie devant ces images de monde mouvant, par exemple, ces photographies qu'il a prises lors d'une traversée transatlantique sur un voilier, la poésie de la mer, la poésie du mouvement, etc. Mais moi, j'y vois au contraire des choses qui sont extrêmement construites, notamment cette fameuse houle atlantique, donc on ne voit vraiment que lorsqu'on est sur un voilier et au milieu de l'Atlantique, et encore dans des conditions particulières. Moi, je n'ai pas eu la chance d'expérimenter ça. Cette vague ressemble à une montagne. C'est une concrétion qui renvoie aux concrétions des grottes, qui renvoie au mont Athos, etc.
Non, ce n'est pas une question de rêve ou de faire rêver. C'est une question de donner à voir ou de donner à la conscience quelque chose qui va nous permettre de faire autre chose. Et j'entendais Pascal Quignard qui, un jour, a dit quelque chose d'assez juste. C'est que quand on vient sur Terre, on n'apprend peut-être pas beaucoup de choses. Par contre, on peut donner à la relation à grandir. On peut compléter nos connaissances. Ça ne veut pas dire qu'on apprend ou qu'on change. C'est encore du temps long.
Pierre-Yves de Sèvres, voilà. Je suis conservateur pour l'art contemporain au Musée Royal des Beaux-Arts et j'écris également sur l'art. Voilà. Et je connais Alexandre depuis longtemps. Je l'ai suivi au tout début de son travail photographique. Donc je suis très très content de voir cet aboutissement ici, dans cette magnifique exposition.
Donc cette poésie que je trouve chez Alexandre Christiane, je la retrouve chez Anne-Sophie Kostenoble, où vraiment là, on a une suite de moments, mais des moments de la vie de tous les jours. Des choses qu'elle a vécues, qu'elle a tout à coup ressenties, elle a fait la photo, elle ne savait même pas pourquoi elle faisait la photo sans doute, et puis elle l'a choisie, et on choisit ces moments. Et tous ces moments choisis forment une sorte de grand poème là.
Là, je suis à l'hôtel Palmière de Balbec et ce sont deux conservateurs qui sont dans cet hôtel depuis les années 60, qui m'ont reçu, moi et mon épouse, parce qu'on est passé là en avril cette année. Et c'est des mémoires vivantes, ils sont exactement comme tout ça, comme l'environnement qui est devant eux et qui le protège. Très très beau, des gens magnifiques. Le Liban, Balbec, c'est la plaine de la Beka, c'est...
C'est du Liban que viennent les premiers voyageurs, qui nous amènent beaucoup.
Liban, effectivement.
Les Phéniciens.
Les Phéniciens, tout ce qui est Tyr, etc. Enfin, c'était vraiment les grandes zones, et des grandes zones, je pense, assez remarquablement, on pourrait presque dire heureuses, dans le concept du voyage, de l'échange et du commerce qui se passait.
Thank you. Le sténopée, c'est simplement le fait de faire un petit trou dans une surface et de recevoir la lumière qui passe par ce petit trou, le trou jouant le rôle d'objectif.
Au musée de la photographie à Charleroi. Exposition jusqu'au 3 décembre. Avec Stéphane Couturier, Alexandre Christians, Anne-Sophie Costenoble, Joséphine Desmanets, America Parasmart, Pierre-Yves de Sèvres, Xavier Canon, Georges Vercheval.
C'est une des premières choses qui a peut-être existé dans l'invention de la photographie, parce qu'on savait déjà, il y a longtemps, que ça existait, avant qu'on ne trouve les procédés chimiques. Recevoir les images, quelque part, via un trou, ça se fait.
Et la voix de Emmanuel d'Autreppe. Par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Ça peut se faire chez vous, hein. Un jour, j'étais chez des amis, et je me suis levé, contrairement à mes habitudes, un peu plus tard que d'habitude, et je voyais, je mettais la table dehors, c'était en vacances, en été, et je voyais l'image de la table au plafond de ma chambre. Les volets étant fermés, ça passait par un petit trou du... Voilà, c'est comme ça le sténopée, tout simplement. Il y en a tous les jours.
C'est la poésie pure.
Absolument.
Retrouvez Par Oui Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.